des polars et des notes.
Amis des polars, bonjour, bienvenue pour notre rendez-vous mensuel sur Radio Évasion. Un des polars et des notes d'avril aux airs de printemps avec beaucoup de cadavres et d'affaires tordues. De jeunes auteurs et d'autres qui confirment tout le talent qu'ils avaient déjà affiché dans leurs précédents ouvrages. Sonia est au son. Nous allons parler de contes, de dictatures, de déserts arides, de cargaisons de poudre colombienne et même faire un petit tour en Inde, ce qui n'est pas très courant dans le roman noir. Vous retrouverez bien évidemment toutes les références des livres sur le webzine 404, agrémentées des critiques, des romans, bien évidemment. Alors l'important dans le roman noir, c'est souvent de survivre. Et c'est précisément le titre du nouveau thriller des éditions Sonatine, écrit par Vicky Peterson. Elle fait se débattre son héroïne en plein désert du Morave, Christine Rush, qui est partie avec son fiancé, le brillant chirurgien Daniel, en week-end amoureux près d'un lac. Ils s'arrêtent au milieu de nulle part, dans une station-service désertée, et là, Christine se fait agresser. Quand elle revient à elle, Daniel a disparu, il ne reste que sa voiture et son téléphone portable. L'agresseur va lui téléphoner régulièrement tout au long du livre afin de lui faire effectuer tout un périple si elle veut retrouver Daniel en vie et en un seul morceau. Alors le chirurgien Daniel aime particulièrement le jazz des années 30 et dans sa voiture il écoute Fats Waller, I Wish I Had You. Facile de prendre sa retraite quand on est dans le milieu, quand on est commerçante et qu'on vend de la coke. Et c'est ce que décrit un petit peu Thierry Brun dans son nouvel ouvrage « Les rapaces » qui est paru aux éditions Le Passage. Bonjour Thierry Brun.
Bonjour.
Donc Alexandra en a marre, elle a la quarantaine, elle sort de tôle et vraiment elle en a ras-le-bol, elle veut quitter le trafic.
Oui, elle a assez donné. Elle a commencé très jeune et elle ne les supporte plus tous. Elle veut arrêter avec tout ça. Ouais.
Et elle a perdu son homme.
Et oui, il a fait des choix d'hommes qu'elle ne supporte plus. Ses choix d'hommes, elle les vit depuis 15 ans. Elle s'y est fondue, elle a joué le jeu et là, ça lui coûte vraiment trop cher. Elle paye trop.
Et donc, dans votre roman, en dehors de cette histoire d'Alexandra qui va par tous les moyens essayer de quitter le milieu, il y a surtout l'histoire de la coke, de oui. Comment ça s'organise, de la zone de production jusqu'à la zone de consommation.
Ça, j'ai voulu vraiment asseoir l'histoire dans une réalité sordide, technique. Et ce fut des mois et des mois de recherche, beaucoup de boulot.
Ouais, parce que tout ce que vous décrivez, c'est vrai.
Oui. Ah oui, oui, oui. Alors, bien sûr, il y a le sel du roman, mais toute la partie technique qui va du. Du choix des plans, au traitement, aux techniques de revente, tout est vrai.
Parce que moi, ça m'a fait penser un peu aux pubs qu'on a sur les récoltes de café.
Oui, oui, oui. Et pendant, je me suis fait un petit plaisir. J'ai eu tout à fait cette image-là quand elle écrase le plan pour goûter, pour voir s'il y a le côté très, très amer qui annonce le plan de bonne qualité. Moi aussi, j'ai eu exactement la même image et j'ai hésité à le laisser. Puis après, je me suis dit, allez, un petit peu, si quelqu'un capte le petit trait d'humour, c'est sympa d'avoir capté.
Ah, oh bah là, c'était les gringos qui arrivaient, oui, vraiment.
Ça m'a. Mais bon, c'est sympa aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humour dans ce roman.
Pas tellement, non.
Pas tellement, c'est assez noir, c'est assez tendu. Et ce petit passage, qui amène en plus son autorité quand même en faisant ça. Au départ, ils partent sur un deal avec Gérard Bardella. Au Pérou, et dans ce milieu, tout est question d'autorité, de pratiquement de possession.
De testostérone aussi.
Oui, l'intimidation, ça passe par l'intimidation, ça passe par plein de choses. Et ce petit passage, même s'il y a ce petit trait d'humour, montre bien qu'elle prend la main. Sur quelqu'un qui devrait pourtant quand même rester assez maître de ce qu'il fait, puisque elle n'est qu'une acheteuse. Et je voulais vraiment qu'elle ait cette démarche tout le temps. Elle prend la main. Voilà, Alexandra.
Ce que vous démontrez bien, c'est quand même la misère des travailleurs de base là-bas. La façon dont ils sont exploités, dont ils ne valent absolument rien. Ils sont mis à l'abattoir.
Ils valent zéro. Ils valent zéro. C'est leur famille appartient soit au petit patron, soit au grand patron. C'est une chaîne ininterrompue de gens qui ne sont pas surpayés, qui vivent dans des conditions misérables, sordides. Mais on retrouve ça aussi en France. Il
oui.
Faut pas croire. Hein. C'est toute la chaîne est comme ça. Pour t'en as mille qui triment. Hein. Pour un élu, t'en as mille qui triment. On est loin du. Des super narcos roulant en grosse bagnole ou traversant le Pacifique ou l'Atlantique dans des go-fast de fous. Hein.
Mais c'est ce que vous faites, il y a le parallèle entre les narcos au Pérou et les gamins sur la dalle.
Bien sûr, oui, les gamins qui commencent, c'est plus une histoire de copains qui abusent d'autres copains, qui sont eux-mêmes abusés par des mecs qui ont déjà 3 ans dans les dents et tout le monde abuse tout le monde fait pression sur tout le monde et celui malheur à celui qui voudrait s'en sortir comme je dis à un moment donné c'est parfois une descente de police qui permet à certains de se dire tiens je pourrais peut-être m'en sortir.
Mais Alexandra en fait elle est pas de façon atavique dans ce milieu-là, elle l'a choisi,
oui, elle n'a pas du tout le profil. Elle, en fait, elle l'a choisi, oui et non. J'ai voulu montrer qu'elle l'avait choisi, qu'elle a absolument pas le profil. Elle vient d'un petit milieu, on va dire, tout petit bourgeois. Ils ont un petit pavillon. Ce sont pas des gens qui roulent sur l'or. Mais j'ai voulu montrer qu'elle le choisit. En même temps, elle le choisit pas parce que j'ai voulu montrer une famille où il ne se dit rien. En fait, les parents se parlent pas. Et c'est un parallèle que j'ai souvent retrouvé puisque j'ai habité dans des endroits où on se parle pas. Quand il y a un silence autour de la table le soir, quand on n'a plus rien à se dire, quand les parents ont un peu honte de ce qu'ils sont, la nature a horreur du vide et les mots m'y remplissent. t'as un peu de chance, tu remplis avec quelque chose de plus ou moins équilibré. Et bah, si t'as pas de chance, tu remplis avec, avec des choses qui vont te pourrir la vie. Et ça, j'ai voulu le montrer dans le rapport d'Alexandra avec son père.
Et là, elle va à l'école avec justement des jeunes qui, eux, sont destinés par leur classe sociale et leur habitat presque à devenir des trafiquants.
Oui, oui, tout à fait. Elle était à la maternelle et puis après, course au CP avec eux. Elle les connaît, elle a joué avec eux. Elle va les rejoindre dans leur... Dans leur course à quoi, en fait, leur course à...
Au fric,
oui. Je ne sais pas si eux, c'est vraiment autant ceux qui sont au-dessus ou les revendeurs dans Paris. C'est vraiment une course au fric. Eux, je pense, bon, il y a le fric, c'est sûr, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de remplir, comme je disais, il y a un besoin d'exister. Et t'existes à travers quoi? Quels sont les miroirs? Dans les miroirs, enfin, qu'est-ce qu'on te renvoie? Bah, c'est la réussite, mais c'est partout. Hein. C'est à la différence des travailleurs. On retourne au début du roman où eux, de toute façon, ils ont zéro choix. Eux, ces gamins en France, même si le choix est un peu biaisé dès le départ, je pense qu'on court avec, on court après de la reconnaissance. On court, oui, après le fric, après les signes extérieurs. Mais ces petits gamins, en fait, tu veux plaire au plus grand, qui lui-même plaît, veut plaire à quelqu'un qui pèse, comme ils disent, et croiser le regard de quelqu'un pour qui t'as envie de compter.
Mais en fait, ceux qui comptent vraiment, ceux qui sont tout en haut, on les voit jamais.
Oui, tout à fait. Et quand on esquisse vraiment ceux qui sont tout en haut, ce sont des lignes froides de chiffres ou ce sont des conséquences de l'action au quotidien, des investissements dans les activités illicites, des investissements dans d'autres choses, dans des parts de capital, des choses comme ça. On les voit jamais, ils n'existent pas, ils sont transparents.
Oui, c'est un petit peu la branche un peu noire d'une holding, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est un peu la cave. Mais la partie de la cave qui est fermée, mais qui alimente par les veines, comme des racines qui pointeraient et qui alimentent de façon totalement invisible. Ce sont des artères irriguées par du cash qui est engrangé tous les jours. Ouais. Ouais,
pour tout savoir sur le trafic de coke et en plus lire une très très belle histoire d'amour et un roman très noir, je vous recommande Les Rapaces qui est paru aux éditions Le Passage de Thierry Brun. Merci beaucoup Thierry. S'écouter Swedish Mafia House. Juan, qui est dans le roman, bien sûr.
Oui.
Bon après-midi, merci.
Merci.
Un très très grand auteur de noir qui revient, c'est toujours un événement. Et là, c'est Caryl Ferret qui nous avait laissé sur Mapuche il y a 4 ans déjà. Le voici de retour avec Condor, qui est paru à la série noire Gallimard. C'est une fresque magnifique du Chili actuel, toujours en convalescence de la dictature de Pinochet. Ça commence par une grande histoire d'amour qui dure tout le long du livre entre Gabriela, une vidéaste Mapuche, héritière de pouvoirs chamaniques, rebelle, libre, et Esteban, qui est avocat des causes perdues et des clients sans dessous. Il traîne comme un boulet la honte de l'origine de la fortune familiale obtenue sous la dictature. C'est la mort de plusieurs gamins d'un quartier déshérité, victimes d'une coke trop pure, qui va les réunir. L'envie de savoir comment ce produit très cher a bien pu arriver là. Des bas-fonds de Santiago au vaste et riche désert d'Atacama, où s'organise le pillage des ressources naturelles du Chili. Ils vont traquer les responsables et ainsi faire un état des lieux de ce pays livré pieds et poings liés au libéralisme le plus sauvage. Très présente, la musique de Victor Jara, 40 ans, le guitariste martyr, les mains cassées, massacré dans le stade de Santiago par les militaires de Pinochet avant d'être abattu, d'autant de balles qu'il n'avait vécu d'années. El Cigarrito, Victor Jara. Premier roman en forme de conte très très noir, un voyage au pays d'Alice qui ne se passe pas très bien pour les touristes. Tout de suite, j'accueille Morgane Audic pour nous parler de Trop de morts au pays des merveilles, paru chez Rouergue Noir. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Alors donc, vous avez un petit peu repris la trame du fabuleux conte de Lewis Carroll.
Oui, c'est ça. Je me suis inspiré d'Alice au pays des merveilles parce que c'est une espèce de mythe moderne en fait. C'est un conte que la plupart d'entre nous avons vu dans notre enfance. Et donc, pour servir de base à une énigme policière, je trouvais ça assez intéressant parce que on a des références communes. Quand on parle d'Alice au Pays des Merveilles, on a des images qui arrivent, une petite fille blonde, une robe bleue, un lapin blanc. Ça vient assez facilement. Et donc, je trouvais ça assez intéressant de travailler avec un conte pour justement donner du relief à une énigme.
Et votre héros, enfin le premier qu'on voit, il s'appelle pas par hasard Andersen, je suppose.
Oui, c'est ça.
Et il cherche son épouse qui s'appelle Alice et qui a disparu depuis 3 ans.
Voilà. Et donc, ce personnage-là s'appelle Christian Andersen parce que, en fait, il a été il est orphelin et c'est le nom dont il a hérité à la naissance. Et ça colle plutôt bien au travail qu'il fait puisqu'il est avocat et il a la réputation d'être un très beau parleur. Donc c'est devenu un surnom pour lui, hein, le joueur de flûte, le conteur, etc. Et en fait, il y a un parallèle aussi avec l'univers des contes, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à Alice au Pays des Merveilles. Tout au long du roman, plus ou moins caché, il y a des références aux contes, à des personnages de contes qui servent un peu, de parallèle à l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles.
Comme son amnésie, par exemple.
Oui, son amnésie. Et en effet, à la suite d'un accident de voiture, il est devenu amnésique et il doit chercher la vérité. Et cette vérité-là, elle va le mener sur les pas de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Il va se rendre compte qu'il y a un lien très fort avec la disparition de sa femme. Au départ, il a pensé à un hasard, mais en fait, tout est lié. Bon, je ne vais pas trop révéler l'intrigue, mais on va découvrir petit à petit pourquoi il y a un lien avec Alice au Pays des Merveilles. C'est pas juste, une référence en passant. Il y a un vrai lien avec la disparition de sa femme, Alice Andersen.
Et pour revenir au roman noir et très très noir, c'est qu'en fait, lui-même ne sait pas s'il n'est pas responsable de la disparition d'Alice. Il y a des gens qui le soupçonnent, par exemple un procureur qui est persuadé que c'est lui. Lui, il est presque sûr que ce n'est pas lui, mais il n'a aucune preuve. Et oui. En fait, Alice, on ne sait pas où elle est du tout. Il n'y a pas de cadavre, elle a disparu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lui-même n'arrive pas à reconstituer ses derniers jours. Il ne sait pas si elle s'est enfuie, si elle est morte. Et même si, bon, il évite d'y penser, mais il y a toujours ce doute. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fait quelque chose? Est-ce qu'il ne serait pas lui-même un meurtrier? C'est une question qui va se poser. Et certains, dans le roman, ont un avis très tranché là-dessus. C'est-à-dire que lui recherche sa femme. Il emploie des détectives privés, il fait des investigations. Mais à côté de ça, certaines personnes sont persuadées qu'il a voulu faire disparaître sa femme. Et donc, c'est tout l'enjeu du roman, de découvrir ce qui est arrivé à Alice et s'il y a un degré d'implication de Christian Andersen dans cette disparition très étrange.
Et pour compliquer un petit peu les choses, il y a un charmant personnage qui est un tueur en série qui s'appelle le marionnettiste et qui tue des femmes qui ressemblent beaucoup à Alice.
Exactement. C'est-à-dire que dans la deuxième partie de l'histoire, en fait, on a deux histoires qui se croisent. On a un personnage qui s'appelle Diane Kellerman, qui est une ex-flic, qui a enquêté justement sur ce tueur en série, qui s'appelle le marionnettiste, et qui d'ailleurs a été révoqué de la police à cause d'accès de violence. Et voilà, c'était son obsession, ce marionnettiste, et elle n'a jamais pu démasquer, l'arrêter. Or, on va avoir une nouvelle série de meurtres qui va avoir lieu, et en effet, il y a un lien avec Alice, puisqu'on va voir une femme qui lui ressemble et qu'on va retrouver morte.
Et Diane Kellerman, elle est persuadée qu'elle connaît le marionnettiste et c'est son dossier, c'est absolument vital pour elle.
C'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, elle n'est plus dans la police, mais elle ne va pas pouvoir s'empêcher d'enquêter parce que pour elle, voilà, c'est l'enquête de sa vie en quelque sorte. Elle veut à tout prix empêcher ce tueur en série de nuire de nouveau. Et donc, elle ne va pas hésiter à mener sa propre enquête, à travailler seule et même à prendre des risques pour l'empêcher de tuer à nouveau.
Mais elle est en même temps fragile et forte, Diane Kellerman. C'est ça qui est un petit peu paradoxal.
Oui, alors je voulais créer un personnage féminin qui ne soit pas un stéréotype. C'est-à-dire qu'elle était policière, elle est devenue boxeuse, hein, elle a toujours boxé. Elle est donc très forte physiquement. Hein, mais à côté de ça, elle a des fragilités à l'intérieur. Elle a par exemple une phobie du noir qui peut paraître un petit peu absurde, qui rappelle aussi l'univers des contes, un univers enfantin, c'est-à-dire les enfants qui ont peur du noir, à qui on raconte des histoires, etc. Et elle a donc cette peur-là et elle a beaucoup de fragilité à l'intérieur. Et ça en fait un personnage assez attachant, assez intéressant, parce que c'est pas seulement quelqu'un de fort, c'est vraiment quelqu'un qui doit dépasser des choses qui l'effraient elle-même.
Oui, pour revenir au monde du conte, elle a absolument besoin de se persuader que le monstre, il est bien enfermé.
Oui. Alors, c'est vrai que pour Diane Kellerman, elle a un avis assez tranché dès le départ. Pour elle, le magnétiste, elle a une idée très claire de qui il est. Et cette nouvelle série de meurtres, elle sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Et c'est pour ça aussi qu'elle va tout mettre en œuvre pour trouver la vérité, parce que voilà, il faut qu'elle démasque ce tueur. Elle sait qu'il va se passer quelque chose. Elle se doute qu'il y aura d'autres morts, donc elle veut agir. Mais en effet, elle a ce pressentiment qu'il y a des choses qui sont cachées et qu'il va falloir les découvrir.
Eh ben, on va faire une toute petite pause musicale avec Don't You Remember de Adèle, qui est dans votre roman. Et on se retrouve tout de suite après pour parler de Trop de morts au pays des merveilles.
You love me.
Oui, justement, vous parliez des deux enquêtes en fait presque parallèles, ceux qui cherchent Alice et ceux qui sont persuadés du marionnettiste. Mais ceux qui cherchent Alice, ils sont un petit peu tous en marge. C'est des flics mis au banc de l'enquête, exclus de la police, un avocat amnésique, il y a des Roms, il y a tout un monde, mais qui ne fait pas partie du système.
Oui, c'est ça. Je voulais montrer aussi... alors, on a des gens très implantés dans le monde. On a par exemple le procureur Leloir, on a Théodore Géricault qui mène l'enquête officielle. Et je voulais qu'il y ait aussi un anti-monde, c'est-à-dire un monde souterrain où on va découvrir d'autres personnages. Alors, en effet, il y a un camp de Rome. On va avoir tout un tas de marginaux aussi, des personnes qui sont vraiment à la frange. Et ça permet aussi de peindre un petit peu la société, hein, voir d'autres endroits. Et ça laisse aussi une grande liberté de manœuvre aux personnages. C'est-à-dire qu'on peut sortir du cadre de l'enquête pour aller découvrir d'autres milieux et mener une enquête peut-être différemment.
Mais ce qu'on ressent dans votre roman, c'est que la vie, elle est plutôt là. Elle est plutôt à la marge.
Oui, c'est vrai que finalement, les phases où je parle juste d'enquête policière avec un groupe de policiers, par exemple, sont assez limitées dans le roman. Et quand on va pénétrer dans ces autres univers, il y a beaucoup de vie, c'est vrai. On voit, vous parlez du camp de Rome, on va voir comment ça se déroule dans ce camp, quelle vie il y a. Il va y avoir tout un tas d'événements. Et en effet, c'est plutôt dans ces endroits-là que va se passer l'action.
Et des Alice, il y en a partout. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de miroir qui se reflète à l'infini. Et des Alice, il y en a partout et tout le monde part sur toutes les pistes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le héros lui-même, au départ, va faire une remarque à ce sujet-là parce que ça fait 3 ans que sa femme a disparu. Il a lancé des recherches. Il a un enquêteur qui travaille pour lui. Et en fait, il a retrouvé tout un tas de femmes qui ressemblaient à Alice. Et là, je reprends un peu l'image, hein, puisque finalement, la suite d'Alice au Pays des Merveilles, c'est de l'autre côté du miroir. Et c'est un petit peu comme si on avait des reflets d'Alice dans un miroir qui n'était pas tout à fait sa femme, qui lui ressemble, mais il manque un petit quelque chose à chaque fois. Et à chaque fois, il pense retrouver sa femme et il est déçu à chaque fois.
Et est-ce que vous diriez, c'est un peu ce que j'ai ressenti, que chacun était à la recherche de lui-même, en fait?
Oui. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que tous les personnages ont un désir profond ou alors une peur, quelque chose à quoi ils vont être confrontés dans le roman. Il y avait cette histoire de peur du noir avec Diane Kellerman, mais au-delà de ça, elle cherche d'autres choses. Le héros recherche sa femme et recherche aussi son passé, d'une certaine manière, qu'il a perdu dans l'accident de voiture avec l'amnésie. Les héros secondaires recherchent aussi quelque chose. Ils ont tous un désir qui va les animer tout au long de l'enquête.
Et c'est vital pour eux. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui vient comme ça se greffer dessus. C'est il faut qu'ils se reconstruisent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans mon roman, j'ai voulu que chaque personnage ait vraiment son histoire particulière sans que ça soit trop envahissant. C'est-à-dire que faut que la lecture soit fluide aussi, mais on va rencontrer des personnages qui ont un fort désir, qui veulent vraiment obtenir ce qu'ils veulent. Diane Kellerman, elle met vraiment tout en œuvre pour arrêter le tueur. Elle met tout en œuvre pour combattre ses peurs. Et les autres personnages, ça va être la même chose. Et ça peut créer des frictions, comme par exemple Théodore Géricault qui est l'enquêteur principal, qui va s'opposer à Diane parce qu'elle veut mener son enquête en sous-marin alors que lui mène l'enquête officielle. Donc on va avoir de fortes tensions à cause de ses besoins, de ses désirs des personnages.
Et en dehors des contes et du roman noir, du suspense et tout ça, vous traitez un sujet qui est vraiment très très actuel, qui en fait est la manipulation de masse.
Oui. Alors c'est vrai qu'au final, alors là encore, c'est difficile de pas trop en révéler.
Et ouais, c'est pour ça que j'ai du mal.
À un moment donné, dans l'enquête, c'est vrai qu'on va aborder des sujets qui font penser à ce qu'on voit dans l'actualité. Par exemple, pour ne pas les citer, les Panama Papers, on parle beaucoup de manipulation économique, financière, etc. Et à un moment donné, dans le roman, on va évoquer ce pan-là qui appartient aussi à l'anti-monde d'une certaine manière, puisque d'un côté, on a des gens qui prétendent faire certaines choses, donc je ne vais pas être plus précis, mais de l'autre côté, qui traînent dans des sphères pas très recommandables, voire même carrément louches.
Où on voit, par exemple, comme aujourd'hui, des voleurs qui portent plainte contre les dénonciateurs.
Oui, oui aussi. Oui, oui. En fait, le roman permettait... c'est aussi la veine du roman noir. On peut aller interroger des problèmes de société et aller dans des endroits... C'est-à-dire que l'enquête, elle peut nous mener un peu où on veut et ça permet d'aborder d'autres sujets que l'enquête pure. Hein. On parle aussi de la société, finalement, dans les romans noirs.
Ah, surtout de la société dans les romans
oui,
noirs. C'est
surtout,
même là qu'on
oui.
en parle le mieux.
Exactement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison.
Pour un premier roman, c'est un coup de maître. Et le prochain, il est en route ?
Oui, le prochain, il est en route. Alors là, on changera un petit peu d'univers. Je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant pour aménager un peu de suspense, mais ça me demande beaucoup de recherche. Je travaille sur beaucoup d'ouvrages, beaucoup de romans. Et on aura quand même le lien pour le deuxième avec une autre œuvre, un petit peu comme la première avec l'œuvre de Lewis Carroll. Il y aura un lien avec l'œuvre d'un autre auteur, mais pour l'instant, je n'en parle pas plus.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon courage. Et puis,
merci
moi,
beaucoup.
J'invite les auditeurs à lire « Trop de morts au pays des merveilles » chez Rouergue Noir. Pour se quitter, Morgane Audic, je sais que vous êtes prof, on va s'écouter un autre Alice, c'est Cooper et Schools Out.
Ah.
Ça devrait vous faire du bien aussi.
Ah oui, très bien, très bonne idée.
Bon après-midi, au revoir.
Au revoir, merci.
Toujours en parallèle avec la situation actuelle, l'histoire, etc. La littérature noire touche à tout et elle touche à de si vieux ennemis de Alain van der Ecken qui est paru au Rouergue Noir. Palmyre a disparu. Palmyre, c'est une jeune femme charmante dont Victor a été amoureux et qu'il a perdu de vue depuis des années. Elle a disparu brutalement et sa mère, au comble dans l'angoisse, fait appel à Victor en qui elle a toute confiance pour la retrouver. Seulement voilà, dans le sillage de Palmyre se lèvent des relents nauséabonds de la France telle qu'on s'efforce de l'oublier et dont l'odeur pourtant persiste à offenser nos narines. Je parle de la collaboration de Vichy, les Kagoulards et les vastes réseaux occultes qui ont perduré après la guerre jusqu'au temps présent. Un style étourdissant, c'est très très bien écrit. Cependant, il n'y a pas un temps mort dans cette drôle d'enquête. Des rebondissements à foison et on rit sans cesse malgré le sujet. En ces temps incertains de déchéance et autres états improvisés d'urgence, ça ne peut pas faire de mal de se souvenir que la lèpre qui ronge notre société depuis si longtemps dure encore. On y trouve aussi de la musique, dont Gotthard, dont on écoute « Feel What I Feel ». Pas de coin des éditeurs ce mois-ci parce que nous allons recevoir Mélanie Talcott qui vient de recevoir le prix du Polar auto-édité 2016 pour Goodbye Gandhi qui est paru aux éditions L'Ombre du Regard. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors félicitations tout d'abord pour ce prix qui n'est pas si facile que ça à avoir.
Mm-hmm,
il y a beaucoup de candidats. Est-ce que c'est ton premier polar ?
Oui. En fait, moi, j'aborde un peu tous les genres. J'ai pas un genre déterminé, c'est en fonction un peu de l'histoire que je veux raconter.
Ok. Et la première impression après le prix, il y a des premières retombées déjà ?
Non. Non, il n'y en a pas beaucoup. D'abord parce que je ne suis pas connue. Ensuite, peut-être parce que j'écris des livres qui sont un peu atypiques, dans le sens qu'il n'y a pas... Par exemple, dans ce polar, il n'y a pas forcément une intrigue, un meurtre, du sexe, du sang et de l'hémoglobine partout.
Bah, il y en a un petit peu quand même.
Il y en a un petit peu, oui, mais enfin, c'était pas le but du jeu.
Ouais, mais ça éclabousse quand même un peu.
Oui. Non, il n'y a pas beaucoup de retombées. J'ai eu des chroniques, dont la vôtre. Le travail de Laure Lapec de Bouquin de série. Et puis, voilà.
Et donc, pour en revenir à Goodbye Gandhi, ça se passe à Pondichéry, où un corps est découvert au marché aux fleurs. Et donc, c'est Amma Amrita qui est une humanitaire.
Oui, une humanitaire. En fait... tout le livre est basé sur des faits réels, parce que j'ai vécu 5 ans en Inde, et disons qu'à l'exception de ce que font les enfants, mais qui est parfaitement plausible dans le cadre de l'Inde, tout le reste c'est des faits et des personnages réels dont j'ai changé les noms, j'ai changé... Voilà.
Et donc c'est un roman un petit peu à deux étages où il y a d'un côté l'enquête parallèle que mène l'inspecteur Vijay Ramalingam et la lente agonie de Amma Amrita qui est une humanitaire d'origine française.
Tout à fait, oui, mais en même temps il faut savoir que le territoire de Pondichéry, bon, qui a été une colonie française pendant de très longues années, quand un ressortissant français, en l'occurrence, il lui arrive quelque chose, les autorités travaillent conjointement, en général.
Mais là, elles avaient plutôt intérêt à étouffer l'affaire.
Oui, parce que mais de toute façon, c'est le genre d'affaire qui est complètement étouffé en Inde. Par exemple, quand dernièrement on a parlé du viol en Inde qui a remué autant les médias, en fait, c'est parce que la jeune fille appartenait à une caste haute, parce que les castes existent toujours, même si elles sont interdites par loi. Et donc, on en a parlé parce que voilà, ça touchait une couche de population qui n'a pas l'habitude de ça. Alors qu'il y a des viols qui se produisent carrément toutes les minutes en Inde, partout, dans tout le territoire de l'Inde. Et cette humanitaire, disons que... elle va subir une espèce de rédemption dans sa lente agonie, parce que les enfants veulent lui faire comprendre quelque chose, que ce qu'elle leur a fait subir, ils vont lui faire subir, mais pour qu'elle arrive, disons, à renouer avec elle-même dans tout ce qu'elle a abandonné, et que l'Inde, avec facilité, fait abandonner à beaucoup de gens.
Oui, j'ai l'impression que c'est un peu un chemin de croix.
Oui et non. C'est peut-être au début un chemin de croix, mais je crois qu'à un moment donné où elle... où elle comprend, parce que si elle ne comprend pas, les enfants eux-mêmes, ce qu'ils font n'aura plus aucun sens. Donc il y a un moment donné où je pense où elle comprend. Et même, je pense qu'elle le sait depuis le début. Parce qu'il y a un peu cette dichotomie que vous trouvez en Inde, quand les gens agissent de la manière dont elle agit, ils sont toujours conscients de ce qu'ils font.
Oui,
c'est pas
des enfants de cœur.
Voilà, c'est pas du tout des enfants de cœur et ils savent parfaitement ce qu'ils font.
Il y a la dénonciation quand même, c'est de la misère des enfants qui est absolument terrible. Mmh. La misère des enfants en général et des filles en particulier.
Mmh. Tout à fait, parce que là-bas, notre fille, c'est une malédiction totale.
Mais pire quand on est pauvre.
Encore pire quand on est pauvre. Moi, quand j'étais en Inde, j'ai eu l'occasion de travailler dans une maternité, donc... d'aider des femmes à accoucher, et la première fois que j'ai vu une femme qui avait une fille, je l'ai vue fondre en larmes et demander pardon à son mari de lui avoir donné une fille.
Oui,
donc un jour, par exemple, je me suis mis à expliquer à plusieurs femmes qu'en fait c'était le mari qui déterminait le sexe de l'enfant. Elles m'ont regardé comme si je venais de la planète Mars. Parce que pour elles, c'était impensable. Et c'est vrai que de naître fille, c'est quelque chose d'absolument terrible.
Il y a une dénonciation aussi de l'humanitaire qui couvre un peu pas mal de trafic glauque.
Oui, mais il y en a beaucoup. c'est malheureux à dire, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font des choses bien. Et puis, d'autre part, par exemple, au niveau de l'humanitaire, il y a beaucoup d'organisations humanitaires indiennes qui font un travail extraordinaire. Et ben, de celles-là, on n'en parle jamais. On parle toujours que des occidentales. Et elles font pas toutes des trucs bien.
Ah là, c'est carrément pas bien, même.
Il y a beaucoup d'exploitations. Il y en a qui ouvrent des commerces, enfin des franchises pour faire de la broderie et autres. Et en fait, ils se remplissent les poches et ils payent les indiennes qui brodent, par exemple, des cacahuètes. Donc c'est un pays vraiment... Mais je crois que c'est le pays qui engendre ça, parce que c'est un pays d'abord où il y a de la corruption de A jusqu'en bas, même dans les familles, où on est prêt à s'entretuer pour une roupie. Et cette corruption, elle déteint un petit peu partout. Et donc, quand vous voulez faire quelque chose, même en tant qu'organisation humanitaire, il faut glisser des enveloppes sous la table. Toute cette corruption fait que ça gangrène aussi peu à peu les esprits. Et comme c'est un pays qui vit sous un chaos qui fonctionne parfaitement, mais c'est un peu comme si tout était mis sur la table. Vous avez le bon et le pire, le meilleur, tout se côtoie. Et c'est à chacun de choisir. C'est pas un pays qui a une morale manichéenne comme nous, où c'est le mal, non, pas du tout.
La plus grande démocratie du monde a du boulot encore.
Oui, enfin, je pense que de démocratie, elle n'a que le nom. Hein. C'est ce que nous, en tant qu'occidentaux, on se plaît à croire, mais c'est pas du tout une démocratie.
Bien sûr, mais il suffit de le dire.
Parce que la démocratie, les votes s'achètent là-bas, par exemple. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un temple, je crois, dans le Kerala qui a brûlé. Et nous, dans la presse occidentale, on a présenté ça comme un incendie malencontreux, pardon. Et en fait, c'est dû à une bagarre électoraliste. Parce que là-bas, il faut savoir qu'on peut, les gens, par exemple, qui savent ni lire ni écrire, on achète leurs empreintes. Puis après, on achète les votes à coup de... Cette année, c'était... On donnait des motos et des écrans plats.
Ah, c'est cool. Mais c'est la présidentielle bientôt en France.
On les donne à des électeurs qui n'ont même pas l'électricité, mais on leur donne, par exemple, une télé. Donc, elle est livrée chez eux. Et après, on ne sait pas qui vote pour qui, parce que tout le monde reçoit des cadeaux. Alors, il y a là, au Tamil Nadu, il y a deux candidats. Il y a une femme qui a été condamnée d'ailleurs parce qu'elle était qui a été condamnée à la prison pour des raisons de corruption. Et en face d'elle, il y a un vieil acteur indien qui maintenant a mis son fils, mais c'est toujours lui en coulisses. Et donc, quand il y a des élections, c'est à qui enverra le plus de cadeaux aux électeurs. Et tous les ans, ça augmente. Donc, avec une telle corruption, où les Occidentaux sont aussi considérés comme des vaches à lait et sont priés de donner des enveloppes à tout le monde, c'est difficile de pas devenir corrompu. Et puis, il y a tellement de facilité, je dirais, parce que les Indiens aussi participent, par exemple, pour les enfants. Il y en a qui vendent leurs enfants, sans aucun problème.
Eh ben, alors donc, pour tout savoir sur ce qui se passe en Inde, sur le misère des enfants, sur le trafic des humanitaires, moi, je vous conseille « Goodbye Gandhi » de Mélanie Talcott, qui est le prix du Polar auto-édité 2016. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci à vous.
À bientôt pour le prochain, alors.
À bientôt pour le prochain, qui se passera en France, celui-là.
D'accord. Bon après-midi.
Et la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on. Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris. Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens. Pendant qu'il meurt, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche. blanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait, chaque jour en se rasant.
Et on se quitte donc sur J'ai la mémoire qui flanche, qui est tiré de Goodbye Gandhi de Mélanie Talcott. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous, votre mémoire est intacte et que vous allez vous rappeler tout ce petit tour du monde, de Las Vegas au Chili, en passant par la France et l'Inde. Là, vous avez de quoi lire. Nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bonne lecture. Bye bye.
Des polars et des notes.